Et on va pouvoir évoquer cette victoire de l'équipe de France contre l'Afrique du Sud. Vous étiez avec nous, Mathieu Blin, d'ailleurs, pour le commentaire de cette rencontre. Qu'est-ce que vous retenez avec le recul maintenant de cette victoire? Parce que c'est une belle victoire, c'est une victoire historique, 12 succès consécutifs. Toutes les grandes nations ont été battues par l'équipe de France. L'Afrique du Sud, championne du monde en titre. Mais tout de même, il y a encore des petits points qui clignotent quelque part et des choses à améliorer.
Il y en a plein de choses à améliorer, mais je suis un peu surpris qu'on puisse imaginer un peu être sur une défaite encourageante ou alors une victoire difficile,
inquiétante.
On n'avait pas gagné l'Afrique du Sud depuis 2009, ça faisait 13 ans. C'est la 12e victoire d'affilée et c'est la 12e victoire contre les Springboks. C'est sur le 45e match depuis l'histoire des rencontres entre ces deux nations. Évidemment qu'il y a plein de choses à faire encore. Évidemment que l'équipe de France a souffert. On va en reparler tellement ça a été dense, tellement ça a été intense. Mais c'est gagné contre une équipe qui est championne du monde en titre à 10 mois de la Coupe du Monde chez nous en France. Donc attention, messieurs, dames, je me mets dedans. Ne soyons pas dans la caricature de ces Frenchies qui, quand ça marche pas, on sulfate tout le monde. Et quand ça marche bien, on essaye d'aller chercher la petite mouche. Évidemment qu'il y a encore plein de trucs à faire. Heureusement, sinon, on s'ennuierait.
Et on va en parler, mais Julien Lutringer, vous avez l'impression que l'on crache dans la soupe en France quand on a une génération formidable, quand on bat des records, quand on arrive à s'imposer face à l'Afrique du Sud. Malgré tout, on trouve toujours à redire. Ça, c'est très français, non ?
Oui, c'est très français. Et là où je rejoins ce que dit Mathieu, c'est que c'est vrai que c'est très, très difficile d'avoir un regard critique quand on a vu les Français capables de s'imposer dans les dernières minutes. Hein, il faut le rappeler que le scénario était quand même pas à notre avantage si on regarde ce qui s'est passé à 10 minutes de la fin. Moi, j'ai envie de dire que c'est quand même très encourageant parce que quand on regarde les dernières défaites de l'équipe de France, et je sais que ça remonte, hein, on est sur une série de 12 victoires consécutives, c'était à chaque fois des petites défaites de 3 points contre l'Australie, des petites défaites de 2 points contre l'Australie, des défaites de 4 points contre l'Écosse, 3 points contre l'Angleterre, bref, des petites défaites. Et on a l'impression que sur ces deux derniers matchs quand même, la France a un petit peu inversé cette tendance et a eu cette capacité à gagner dans les dernières minutes. Et ça, je crois que c'est une grande satisfaction parce que quand on sera dans les matchs à élimination directe, c'est ça qui comptera d'avoir mis un point de plus que l'adversaire après 80 minutes ou plus.
Avez-vous le sentiment, Manon Fossat, que les Français ont franchi un cap en s'imposant contre les Sud-Africains, déjà dans la mentalité, parce que c'était un match qu'il a fallu gagner au mental, absolument, et en acceptant le défi et le débat physique face aux Sud-Africains?
Oui, je pense tout à fait. Au-delà d'être une victoire très encourageante, c'est très positif déjà de gagner un match comme ça contre une grosse nation à quelques mois de la Coupe du Monde. On a vu une vraie équipe de France, je pense, ce week-end, avec le mental, le sang-froid. Donc oui, effectivement, les Bleus ont peut-être passé un cap. Ils ont relevé le défi de l'intensité. Ils savaient très bien qu'il allait avoir une très très haute intensité comme ça. Ils l'ont relevé, je pense, de façon très très honorable. Donc ne crachons pas effectivement dans la soupe. Des axes d'amélioration, comme disait Mathieu, il y en aura toujours. Là, on a fait de l'affrontement, mais je pense que les Bleus, les tricolores, à force, vont apprendre à jouer, à être armés contre tout type de jeu. Donc là, le frontal avec les Sud-Africains, contre des Blacks, des Irlandais, un jeu totalement différent, plus cadencé. Mais on voit que les Bleus, petit à petit, oui, ils franchissent des caps.
Jean-Baptiste Esculier, pensez-vous que non seulement les Bleus ont franchi un cap, mais que cette rencontre contre l'Afrique du Sud, finalement, restera comme un match référence? Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais demain, à l'approche de la Coupe du Monde aussi, on se dira, bah, tu vois, quand on avait battu les Box ce soir-là, sur ce score de 30 à 26, il s'est passé quelque chose, il y a eu un déclic. Vrai ou pas ?
Match référence, c'est peut-être un petit peu fort au regard du contenu, mais en tout cas, ce match, il compte énormément parce que c'est quand même un frein psychologique qui décolle face à cette équipe d'Afrique du Sud. Mathieu rappelait la statistique depuis quand on n'avait pas battu l'Afrique du Sud. Plus globalement, on a vaincu toutes les nations de l'hémisphère sud. Ça, c'était pas arrivé depuis Bernard Laporte d'arriver à vaincre toutes les nations de l'hémisphère sud. On a vaincu toutes les grosses nations. Ça ne nous était pas arrivé d'arriver sur une Coupe du Monde en ayant autant de certitudes. Depuis peut-être la Coupe du Monde 2011, et encore, on avait vécu un tournoi 2011 juste avant la Coupe du Monde qui était catastrophique et qui avait tout remis en cause. Donc, psychologiquement, forcément qu'elle est importante, cette victoire. Forcément que ça change des choses, et on l'a senti dans l'attitude des joueurs. de toute façon, sur cette tournée, on a bien compris que les joueurs, ils avaient ce focus sur ce match de l'Afrique du Sud parce que c'était faire tomber la dernière nation de l'hémisphère sud qu'ils n'avaient pas encore affronté. Le match de l'Australie, c'était quelque part le match du record, c'était aussi le moyen de marquer l'histoire. Mais là, on sent que c'est quelque chose qui était important pour le groupe, important pour les joueurs. On a senti aussi cette pression qui a fait qu'on a un peu déjoué, notamment quand on s'est retrouvé à 15 contre 14, quand c'est l'Afrique du Sud qui a pris ce carton rouge. On a un peu pris le match à l'envers. Mais il faut quand même noter qu'il y a une capacité de réaction qu'on n'a pas toujours eue par le passé. Aujourd'hui, on est capable de réagir, de prendre notre destin en main. On est capable de forcer la décision aussi quand c'est mal embarqué. Parce qu'on s'est dit au moment du deuxième essai des Sud-Africains, là, ils sont en train de flancher. Non, cette équipe, elle est capable de réagir, même quand elle prend des coups sur la tête, et ça, c'est important. Il y a peut-être aussi quelque chose qu'on n'a pas assez souligné, c'est le coaching aussi du staff. Parce que pour moi, je pense que Mathieu Blin ne sera pas d'accord avec moi parce qu'on n'est souvent pas d'accord avec Mathieu Blin.
Mais vous êtes très long d'ailleurs ce soir, je trouve, Jean-Baptiste.
C'est vrai. Mais Romain Taoufifénois, le moment où il rentre, pour moi, c'est un des moments charnières de la rencontre parce qu'au moment où Romain Taoufifénois rentre, il apporte une masse physique qui a manqué aux Bleus et à partir de ce moment-là, déjà, l'Afrique du Sud a été moins conquérante et a moins avancé, notamment sur les ballons portés qui nous ont fait excessivement mal sur toute la première partie du match. Donc, il y a eu cette intelligence aussi du staff de s'adapter, de se rendre compte de là où ça n'allait pas et de faire en sorte que ça gagne. Et tout ça, ça crée des repères pour la suite.
Mathieu Blin, vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Baptiste Esculier, bien sûr.
Alors, je suis pas d'accord dans le fait de dire que c'est un choix de faire rentrer Romain Taoufifénois. Rappelez-vous, puisque Flamand a eu un protocole commotion et c'est pour ça que Romain est rentré assez vite. Je suis évidemment d'accord avec ce qu'il dit, Jean-Baptiste Esculier, sur la dimension physique, sur cette importance de pouvoir rivaliser. Et on parle de la deuxième ligne de l'équipe de France depuis la blessure de Willemse, entre autres. Ce combat était le plus âpre depuis des années et des années. Le bras de fer, on appelle ça le bras de fer. Et le bras de fer, c'est jusqu'au bout. C'est quand vous, over the top, rappelez-vous, Stallone, quand ouais. On pose la main au dernier moment pour pouvoir gagner. Je pense qu'on parlait avec Marc Libra de l'art tout à l'heure, dans les coulisses oui. De cette belle émission. Je pense que
Marc
l'équipe
Libra
de France
sera avec nous tout à l'heure.
Est en train de développer sa palette de couleurs, de scénarios, de moments qui peuvent se passer pendant une compétition.
C'est du lard ou du cochon, l'équipe de France, la question?
Ah, c'est vraiment de l'art de toutes les couleurs.
C'est ça.
Je suis d'accord avec toi, Mathieu, mais je pense qu'il manque encore à cette palette de l'équipe de France dans le jeu plus d'alternatives, plus de propositions, de lancements sur les offensives, aller plus balayer le terrain, écarter. Je trouve que les ailiers, ils manquent de ballon. Un Damien Penaud, quand il a le ballon, on le voit, il peut changer le cours d'une action. Mais peut-être qu'il faudrait travailler plus là-dessus.
Ils ont eu peu de ballons, t'as raison, ouais. Puisque c'est l'Afrique du Sud qui était en possession de balles et en occupation de terrain. Ils ont eu moins de ballons puisqu'ils ont souffert, ils ont subi. On peut pas dire l'inverse, c'est pas parce qu'on a gagné qu'on doit mettre des œillères et ne pas dire que l'équipe de France n'a pas subi. Elle a chargé même, j'étais avec vous Lionel et il y avait Jérôme Pavin qui disait « on est en train de se faire balayer ». J'ai trouvé ça un peu excessif, puisque à la fin, si tu te fais balayer, tu ne peux jamais gagner. Là, ils ont gagné.
Ils ont eu peu de ballons, mais sur ceux qu'ils ont eu, sur les relances qu'ils ont eues, on manquait peut-être un peu de... Alors peut-être de... Je ne sais pas si c'est au niveau de la charnière, du 10, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a encore matière à faire au niveau de l'attaque. Quoi,
bien sûr, mais il y a encore beaucoup de choses, le jeu au pied également, dont on va parler dans quelques instants. Et je céderai la parole à Jean-Baptiste Esculier et Julien Lutringer dans quelques instants. Mais je voudrais vous faire écouter Thomas Ramos, l'arrière de l'équipe de France, au micro de Cédric Chasseur, qui revient sur ce qui, à mon sens, est quelque chose de très important, voire de fondateur pour la suite, notamment dans la perspective de la Coupe du Monde. C'est avoir battu, c'est Jean-Baptiste qui le disait aussi, qui l'a rappelé, c'est avoir battu toutes les équipes de l'hémisphère sud, être sur 12 victoires consécutives, c'est pas rien.
Forcément, quand on joue derrière à ce sport, c'est toujours plus facile, on prend moins de coups. Après voilà, il y a eu un gros combat devant, je pense qu'aussi il faut féliciter nos avants, que ce soit les titulaires ou les remplaçants, ils ont su répondre présent face à peut-être la meilleure équipe du monde devant, donc voilà, je pense que ce soir on peut être fier de notre victoire. Ça veut dire qu'on recommence à être une nation sérieuse dans le rugby mondial et tant mieux pour l'équipe de France. Après voilà, il faut pas non plus s'enflammer, ça reste que des test matchs. On a tous en tête forcément les prochains objectifs qui arriveront, mais forcément que pour la confiance et pour les matchs à venir, c'est toujours bien de gagner des grosses nations comme celle-ci.
La confiance est là, le mental est là, le défi physique également. Donc, que faut-il encore améliorer, Julien Luttringer? Déjà, en vous immisçant dans le débat qui s'est créé entre Mathieu Blin et Manon Fossat, c'est intéressant d'avoir votre point de vue, mais peut-être aussi sur d'autres secteurs de jeu, et notamment peut-être le jeu au pied.
Oui, c'est vrai que sur le jeu au pied, il y a des points d'amélioration. Et là, peut-être aussi la gestion des temps faibles et des temps forts sur lesquels les Français peuvent encore optimiser certaines choses. On a vu un match où l'Afrique du Sud a été rapidement réduite à 14. Et on a l'impression, enfin c'est mon sentiment, hein, je ne sais pas si tout le monde partage ce sentiment, que sur cette période où on a été certes très tôt dans le match à 15 contre 14, on n'a pas été suffisamment en mesure de capitaliser. On s'est ensuite retrouvé à 14 contre 14. Pour tout vous dire, sur la période où on est à 15 contre 14, le score, c'est 16-13, entre la 12e et la 48e, grosso modo. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait jeu égal avec une équipe d'Afrique du Sud qui était à 1 de moins. Moi, c'est peut-être plus ça, sur ces moments un petit peu charnières liés à des événements de match, hein, comme peut-être un carton rouge ou des choses comme ça, un changement qui arrive très très tôt dans le match. Cette capacité de l'équipe de France à mieux gérer ses temps forts, et cette capacité à mieux digérer aussi les temps faibles. C'est là-dessus qu'on les attendra. Et puis sur le jeu au pied, vous avez raison Lionel, on n'a pas vu non plus un grand match hein, dans ce qui concerne le jeu au pied, mais parce que, comme vous l'avez précisé et comme on a pu le voir, c'était un jeu qui était basé sur le combat, basé sur un jeu d'avant. Et je tiens à préciser quand même, pour l'Afrique du Sud, hein, que Nina Beer a l'habitude de jouer en 6-2, c'est-à-dire avec 6 avant et 2 arrière uniquement sur le banc. Il ne l'a pas fait contre l'équipe de France ce week-end. Je crois qu'il a une capacité, si on devait le recroiser à la Coupe du Monde, d'imposer un défi physique au minimum égal à celui qu'on a vu samedi soir.
Et pour revenir également sur les cartons rouges et principalement sur le carton rouge de Dupont, Jean-Baptiste Esculier, quand l'équipe de France s'est retrouvée donc à 14 contre 14, en effet, c'est les Sud-Africains en infériorité numérique dans un premier temps qui dominait, en tout cas qui lançait les assauts. Mais on a eu l'impression que l'équipe a vraiment été déstabilisée. Déjà, parce que même en studio, Mathieu Blin l'a très très bien expliqué en direct, mais vous pouvez peut-être revenir dessus. On n'a pas vraiment compris tout de suite pourquoi il y avait ce carton rouge. C'est l'application stricte de la règle en effet. Mais ensuite, les Français ont semblé déstabilisés par la sortie de Dupont.
En même temps, qui ne serait pas déstabilisé par la sortie d'Antoine Dupont ?
Évidemment.
Citez-moi dans un sport, une équipe qui ne serait pas déstabilisée par la sortie de son meilleur joueur, peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde. Heureusement qu'elle est déstabilisée, sinon ça voudrait dire qu'Antoine Dupont n'apporte pas ce qu'il devrait apporter de par son statut. C'est normal qu'il y ait eu cette déstabilisation. En plus, on le rappelle, Antoine Dupont, il a endossé le capitana. Donc ça fait beaucoup de choses à revoir une fois qu'il est sorti. Antoine Dupont, de par son poste de demi-mêlée, a un rôle très important dans la stratégie. Antoine Dupont, il a peut-être l'un des meilleurs jeux au pied à l'heure actuelle de tous les demi-mêlés du circuit, et il a les deux pieds. Donc sur toutes les sorties de camp, c'est lui qui gère, c'est lui qui permettait d'occuper. Et comme on le sait, le jeu au pied d'occupation et de pression, c'est une des caractéristiques fortes du plan de jeu de cette équipe de France. Donc c'est normal qu'il soit déstabilisé quelque part, c'est entièrement logique. En revanche, ils ont quand même eu cette capacité à reprendre le fil du match dans un deuxième temps et à se ressaisir, qui est quand même intéressant. Ça montre qu'on n'est pas non plus complètement dépendant de la présence d'Antoine Dupont. Sur le fait qu'il y ait un carton rouge, je vais peut-être aller à l'encontre de ce que beaucoup de gens pensent en France, mais ça me paraissait totalement logique parce qu'il y a une règle très importante qui dit qu'on doit être maître de ce qu'on fait au rugby et qu'on ne doit pas créer une action qui peut mettre en danger la santé de l'adversaire. C'est ce qui s'est passé, parce que quand même, c'est très impressionnant le choc entre Colby et Dupont. Donc le carton rouge me paraît, malheureusement pour Antoine Dupont, logique. Donc ça, il n'y a pas grand-chose à revenir dessus. Qu'il y ait un moment de flottement derrière, on l'a malheureusement constaté, mais encore une fois, ça me paraît quand même assez normal qu'il y ait un moment de flottement quand on perd un joueur comme Antoine Dupont. C'est toujours bien de voir qu'une équipe arrive à se ressaisir, et si elle a eu un moment un peu de doute, un moment où elle a un peu essayé de se chercher, qu'elle arrive à se retrouver, à avoir une capacité de réaction. Pour être champion du monde, il faudra gagner moche aussi. Il faudra avoir des matchs où on n'est pas bien, on est dans une mauvaise posture, mais on s'en sort quand même. Et c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure, on ne pourra pas toujours avoir des matchs avec des grandes envolées, avec des trois quarts qui sont décalés à la perfection et où on met 40 points. Il faudra aussi gagner des matchs au forceps et être capable de gagner le bras de fer. Je n'irai pas jusqu'à citer Stallone comme Mathieu, mais ça restera important d'avoir cette capacité-là.
Il faut toujours citer Stallone. Dans toutes les situations, Rocky, Rambo, Over the Top, tous les titres de Stallone, c'est la référence absolue, Jean-Baptiste Esculier. Il faut avoir cette référence cinématographique aussi sur l'antenne d'Europe 1. Vous l'avez, Manon, évidemment, cette référence de Sylvester Stallone. Citez-moi un titre de Stallone, allez-y, je vous écoute. Un film avec Sylvester Stallone.
Rocky.
Ah ben voilà, très bien, Rocky, ça marche, c'est le film absolu. Rocky et Antoine Dupont. Est-ce qu'il y a-t-il une Dupont-dépendance à tel point que... dans la perspective du Mondial, de la Coupe du Monde aussi, si Dupont est blessé, si Dupont est moins bien, l'équipe de France sera totalement amoindrie. Et je précise au passage, puisqu'on l'a appris aujourd'hui, Antoine Dupont, nommé pour le titre de joueur de l'année 2022, il est détenteur de ce titre, de meilleur joueur du monde. Il est encore dans la liste des candidats. Manon.
Une Dupont-dépendance, alors effectivement, on le dit, c'est le meilleur joueur du monde. Donc dans cette équipe de France, il fait partie des cadres, il est capitaine, et puis on connaît ses qualités, on ne reviendra pas dessus. Après, on n'est pas à l'abri. La Coupe du Monde, c'est dans 10 mois. On ne sait pas, sur ce 15 de départ voulu par Fabien Galthié et son staff, qui seront les potentiels joueurs majeurs, à qui on ne le souhaite pas, bien sûr, mais qui pourraient se blesser entre-temps. Donc, il vaut mieux pas qu'il y ait une Dupont-dépendance. On voit un Maxime Lucu qui s'en sort très, très bien en remplaçant. Là, on a derrière un Baptiste Couillou qui fait partie du groupe. Nolan Le Garec, qui a été appelé d'ailleurs aujourd'hui dans la liste des 17 qui vont rejoindre le groupe. Donc le but aussi, c'est d'avoir, au cas où il y a une blessure ou quoi que ce soit avec Antoine Dupont, qu'on ait des remplaçants, mais qu'on ait aussi des sur-remplaçants. Il faut pouvoir aussi anticiper ça.
Il y avait tout, Lionel, pour que cette équipe de France trébuche. Le carton rouge de Dupont, évidemment une dépendance énorme sur un joueur comme celui-là, ce serait vrai dans toutes les autres équipes. Sékou Makalou est lié pendant tout le match contre les champions du monde. Sékou Makalou, c'est un troisième ligne, elle, même s'il est positionné comme étant celui qui peut être polyvalent à ce poste. Une supériorité numérique qui n'a pas été bien gérée. Et on amène quand même les Sud-Africains à aller jusqu'à la faute, puisqu'il faut rappeler qu'il y a eu un carton jaune contre l'Afrique du Sud, ce qui a fait que l'équipe de France a re-eu une supériorité numérique. Et cette construction de pénal-touche qui a été dynamisée pour l'essai de Falater, qui est un remplaçant, un finisseur, comme ils disent à Marcoussi, ce qui montre que toute l'ingénierie autour de cette spécificité des remplaçants qui ont pour beaucoup joué longtemps sur ce match fonctionne. Donc cette équipe de France n'a pas trébuché alors que l'ensemble des indicateurs pouvaient en tout cas le faire risquer très fortement.
Il y a un joueur que j'aimerais identifier avec vous et j'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu sur son cas. Je vous donnerai son identité dans un instant. Ce n'est pas Gaël Ficou qu'on va écouter maintenant, c'est juste pour accompagner notre propos autour du match de l'Afrique du Sud et se dire que la France est sans doute prête à accueillir, à affronter n'importe quel type d'adversaire et que finalement ce match contre les box, c'était une très très bonne préparation pour prendre des frigos ou des semi-tonnes en pleine figure. C'est le cas de Gaël Ficou, le trois quarts centre, il l'a ressenti comme ça au micro de Cédric Chasseur.
C'était très costaud ce soir, c'était un très gros combat, on est tombé face à une très belle équipe d'Afrique du Sud, on s'y attendait, on s'était préparé à ça, mais c'est vrai que ce soir ils nous ont mis en grande difficulté. On a perdu des matchs, moi j'ai connu beaucoup de défaites auparavant. Et on a perdu des matchs, mais ça ne tapait pas aussi fort. C'était des matchs stratégiquement, on a pris des grosses défaites, des grosses déconvenues, mais qui a tapé comme ça et nous on arrive à dire non. Après, prendre des frigos dans la tête, non, j'ai connu mieux. Mais après, oui, c'est le sport et on aime ça, franchement on aime ça. On aime quand on est confronté à des joueurs rudes et à des mecs équivalents. Donc quand tu les gagnes et qu'ils baissent la tête à la fin, ça fait toujours plaisir.
Mathieu Blin, on adore ça, prendre des frigos dans la tête, c'est bien connu.
C'est bien connu, on peut en tout cas apprendre à savoir bien les prendre le mieux possible. C'est Gaël Ficou qui parle, le plus sélectionné de l'équipe de France, plus de 74 ou 75 sélections, qui en a joué des matchs contre les Sud-Africains et qu'il parle de cette dimension physique. C'est pas juste pour pouvoir répondre à une question qui a été maintes et maintes fois posée, c'est réellement ce qui s'est passé. Ouais. On ne peut pas se rendre compte de l'intensité, de la violence, je mets des guillemets parce que pas au sens négatif du terme, mais vraiment de l'âpreté qu'il y a eu sur ce match.
C'est un match costaud, c'est un match de costaud, Manon.
Mais je pense aussi que c'est la seule équipe, si on se projette sur la Coupe du Monde, contre laquelle il y aura une telle intensité. Il n'y a qu'eux qui pratiquent ce jeu-là. Je ne vois pas d'autres équipes qui pourraient imposer un tel combat physique.
C'est ça. et les Français ont accepté le défi et le jeu des Sud-Africains, ce qui est très beau en effet. Tout comme d'ailleurs un joueur, l'ancien capitaine des Bleus, Charles Olivon, contre l'Australie et contre l'Afrique du Sud.
Oui, oui, Charles Olivon, il fallait impeccable. En parler. Il a été impeccable, il a volé 2 ballons en touche, 8 plaquages, il n'en a raté aucun, un contest réussi. Donc c'est vrai que Charles Olivon, il a été élu homme du match la semaine dernière. Je pense qu'il aurait, mérité aussi peut-être cette semaine ce titre-là. Mais c'est vrai qu'il fait un retour, Charles Olivon, et puis il a endossé après ce rôle de capitaine une fois qu'Antoine est sorti. Donc très très gros match bien sûr de Charles Olivon.
On voulait le saluer et pour Antoine Dupont, c'est peut-être 10 semaines hein, la suspension. 4 à 10 semaines, il ne sera pas là contre le Japon. Mais ça peut...
Il ne sera pas là contre le Japon, il peut potentiellement aussi rater les 2 premiers matchs de Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain contre le Munster.
Et les sanctions ne sont pas dissociées dans
c'est
le rugby.
C'est applicable dans toutes les compétitions avec la sélection et avec le club en effet. Que peut-il ou que va-t-il se passer ou que faut-il qu'il se passe, Julien Lutringer, contre le Japon ? Une victoire, bien sûr, mais encore, est-ce qu'on va pouvoir recueillir autant d'informations que nous en avons recueillies contre l'Australie et l'Afrique du Sud avec ce match contre les Japonais ? Il faut faire tourner d'abord sur cette rencontre ou pas ?
Je crois que vous avez dit un truc très très important, Lionel. Le plus important, c'est la victoire. On ne peut pas se permettre, entre guillemets, et en respectant l'équipe japonaise, on ne peut pas se permettre de perdre un dernier match comme ça d'une tournée d'automne face à une modeste équipe japonaise qui n'a vraiment, vraiment pas livré un grand match contre l'Angleterre ce week-end. Une équipe anglaise qui avait aussi été remaniée parce que les Anglais ont encore des échéances importantes là sur le mois de novembre. C'est un match qui va se jouer à Toulouse, donc il y aura forcément aussi une ambiance particulière pour les joueurs toulousains, membres du 15 de France. Et puis, il va falloir que Fabien Galthié compose avec la suspension d'Antoine Dupont, ça on en a parlé, mais aussi les joueurs qui ont un petit peu laissé des plumes sur commotion, sur blessure, sur grosse fatigue face à l'Afrique du Sud. Donc, on peut s'attendre à ce que Fabien Galthié fasse tourner, mais je crois que l'essentiel dans tout ça, c'est que la France continue à engranger de la confiance, continue la série, et peut-être justement dans cette optique où on dit que la Dupont dépendance ne doit pas être une réalité dans l'optique de la Coupe du Monde et une potentielle blessure ou une absence d'un Antoine Dupont sur l'un ou l'autre match, ça va lui permettre de tester aussi des schémas. Je crois que tous ces matchs qui vont arriver en amont de la Coupe du Monde, ça va permettre à Fabien Galthié de tester des choses, tester des combinaisons pour pouvoir pallier à toute incertitude qui arriverait l'année prochaine lors du Mondial.
Donc absolument faire tourner avec une équipe bis, Jean-Baptiste Esculier, c'est ça ?
C'est pas trop la tendance de la maison avec Fabien Galthié. Hein. Quand on prend ses matchs, quand il a un effectif au complet, parce qu'il l'a fait tourner sur des tournées d'été, par exemple, où il était obligé de laisser des joueurs au repos parce que les phases finales du top 14 étaient en cours. Mais sinon, quand on prend des matchs face à des nations, allez, on va dire du deuxième tiers, par exemple la Géorgie l'année dernière, il n'avait pas complètement fait tourner son équipe, Fabien Galthié. Il avait fait des petits changements à la marge. Un joueur dans la ligne arrière, un joueur dans le paquet d'avant, c'est souvent sa tendance. Il aime bien quand même s'appuyer sur nos satures. Alors là, il y aura des changements contraints parce qu'il y a la suspension du pont, parce qu'il y a des blessés, mais il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'il y ait une équipe entièrement new. En tout cas, je ne pense pas que ce sera la tendance. Ce n'est pas du tout la volonté de Fabien Galthié. Lui, il l'a dit, il est là pour caper au maximum son ossature et son groupe qui veut amener en finale de la Coupe du Monde. C'est son objectif.
Donner sa chance peut-être à des joueurs qui ont été appelés récemment. Mathieu Blin, ça peut être aussi une issue.
Oui, Manon disait que Nolan Le Garret vient d'être appelé. Oui. C'est le seul à rejoindre les nouveaux pendant cette tournée d'automne. Moi, je pense qu'il va y avoir plus de rotation. D'une part, peut-être que certains remplaçants, finisseurs, vont être positionnés comme titulaires. Il y a des blessés, et entre les blessés de ceux qui n'étaient pas là pendant la tournée, plus ceux qui viennent de se faire sur ces 2 premiers matchs, on est sur des rotations de toute façon obligatoires. Mais Fabien Galthié le fait depuis longtemps. On va bientôt dépasser les 100 joueurs. Ils seront à Toulouse, mais Baye blessé, Flamand pas là, Dupont pas là, donc il y aura un peu moins de Toulousains sur le pré. Moi, je pense que c'est le moment de rajouter une nouvelle couleur sur la palette après 2 grosses victoires contre l'hémisphère sud et les champions du monde. Comment notre équipe de France, dans sa globalité et un groupe élargi, arrive à ne pas faire de la demi-mesure contre des Japonais qui doivent évidemment être battus.
Je vous laisse le mot de la fin, Manon.
Oui, Laurent Labitte l'a dit d'ailleurs après ce match-là, le groupe qui gagnera la Coupe du Monde, ce n'est pas un groupe à 33, c'est un groupe à 50 ou 55. Donc dans cette optique-là, ben voilà, c'est des joueurs qui arrivent le dimanche, qui repartent le mercredi. Le système, ils le connaissent. Et je pense que c'est ça aussi l'objectif de Fabien Galthié et de son staff.
Et on salue les filles également et on les félicite
oui,
pour la troisième place.
Oui, bien sûr, pour
place,
le bronze, hein. Effectivement. C'est beau, hein. Elles ont gagné largement contre le Canada. Donc c'est vrai qu'après la frustration de ce match contre les Néo-Zélandaises, voilà, on est très contents.
Ça s'est joué à tellement peu de choses en plus. Mmh. On est bon quand même en rugby en France, hein. C'est bien, c'est un bon sport hein, finalement,
bah, on, Mathieu. On est pas mal, et hein puis j'étais ce soir avec le rugby fauteuil, oui. Les championnats d'Europe se sont faits en février, la Coupe du Monde va arriver l'année prochaine en 2023, et pour la première fois, le rugby fauteuil fera sa compétition pendant la Coupe du, la Coupe du Monde de rugby à 15, évidemment pour préparer les JO de 2024, donc c'est absolument génial.
Jeux olympiques et Jeux paralympiques, extraordinaire.
Le rugby est en place.
C'est top, tous les rugbys sont en place, on est très contents pour cela. Merci infiniment à Mathieu Blin, à Manon Fossat, à Julien Lutringer, à Jean-Baptiste